From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 181e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Henry
B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième et dernière session de la 181e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous souhaitons la bienvenue aux membres de l'Église et aux nombreux amis de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le Chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy, avec Bonnie Goodliffe et Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant Arise, O God, and Shine. Ensuite, F. Michael Watson, des 70, fera la prière d'ouverture. Après la prière, le chœur chantera Je ressens son amour.
Shine in all my saving minds. Heavenly Father, on this Sabbath day,
Père céleste, en ce jour de sabbat, les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours se sont assemblés de par le monde avec appréciation et reconnaissance pour les nombreuses bénédictions que tu répands sur tes enfants. Nous aimons ton Fils, Jésus-Christ, dont la vie et le ministère ont apporté vie et lumière, dont le sacrifice expiatoire nous donne l'occasion de retourner en ta présence. Nous te prions ce jour pour le prophète, président Monson, pour sa compagne, pour sa santé et sa force, afin qu'elle puisse en jouir à nouveau. Nous te prions pour les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres, des témoins spéciaux de toi dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants ce jour pour les missionnaires, au Père, pour ceux qui quotidiennement sortent pour lancer des invitations aux autres, de recevoir les bénédictions qu'apporte l'Évangile. Seigneur, après avoir reçu la parole et la musique sur les ondes, nous te prions que les invitations données aujourd'hui nous permettent d'y répondre. Au nom de Jésus-Christ, amen.
We will now be pleased to hear.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Russell M. Nelson et Dallin H. Oaks du Collège des Douze Apôtres. Ils seront suivis de Matthew O. Richardson, deuxième conseiller dans la présidence générale de l'École du Dimanche.
One week after a recent assignment to create...
Récemment, une semaine après m'être acquitté de la tâche de créer le premier pieu de Russie à Moscou, j'ai assisté à une conférence de district à Saint-Pétersbourg. Tandis que j'exprimais ma reconnaissance envers les premiers missionnaires et dirigeants locaux qui ont fortifié l'Église en Russie, j'ai mentionné le nom de Yachislav Efimov. Il a été le premier converti russe à devenir président de mission. Sa femme et lui ont fait un travail formidable à ce poste. Peu après la fin de leur mission, et à notre grande tristesse, le président Efimov est décédé subitement. Il n'avait que 52 ans. Tandis que je parlais de ce couple de pionniers, je me suis senti poussé à demander à l'Assemblée si sœur Efimov était présente. Une femme s'est levée tout au fond de la salle. Je l'ai invitée à venir au micro. Oui. C'était sœur Galina Efimov. Elle a parlé avec conviction et a rendu un témoignage puissant du Seigneur, de son évangile et de son Église rétablie. Son mari et elle avaient été scellés dans le Saint-Temple. Elle a dit qu'ils étaient unis pour toujours. Ils étaient toujours compagnons missionnaires, elle de ce côté du voile et lui de l'autre. Pleurant de joie, elle a remercié Dieu des alliances sacrées du Temple. J'ai pleuré, moi aussi, parfaitement conscient que l'unité éternelle incarnée par ce couple fidèle provenait du fait qu'il avait contracté, respecté et honoré des alliances sacrées. L'un des concepts les plus importants de la religion révélée est celui de l'alliance sacrée. En langage juridique, une alliance signifie généralement un contrat entre deux parties ou plus. Mais dans le contexte religieux, une alliance est bien plus que cela. C'est une promesse sacrée, faite avec Dieu. C'est lui qui en fixe les conditions. Chaque personne peut choisir d'accepter ces conditions. Si l'une accepte les conditions de l'alliance et obéit à la loi de Dieu, elle reçoit les bénédictions qui sont liées à cette alliance. Nous savons que lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Au fil des siècles, Dieu a conclu des alliances avec ses enfants. Ces alliances apparaissent dans tout le plan du salut et font donc partie de la plénitude de son évangile. Par exemple, Dieu a promis d'envoyer un sauveur à ses enfants, leur demandant en retour leur obéissance à sa loi. Nous lisons dans la Bible l'histoire d'hommes et de femmes de l'Ancien Monde, identifiés comme enfants de l'Alliance. Quelle alliance? L'alliance que Dieu a traitée avec leur père en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Dans le livre de Mormon, nous lisons l'histoire de gens dans le Nouveau Monde aussi identifiés comme enfants de l'Alliance. Le Seigneur ressuscité leur a dit, « Voici, vous êtes les enfants des prophètes, et vous êtes de la maison d'Israël, et vous êtes de l'alliance que le Père a faite avec vos pères, disant à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Le Seigneur a expliqué l'importance de leur identité d'enfants de l'Alliance. Il a dit, « Le Père m'ayant ressuscité d'abord pour vous, m'a envoyé vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités, et cela parce que vous êtes les enfants de l'Alliance. » L'alliance que Dieu a faite avec Abraham et qu'il a réaffirmée par la suite à Isaac et à Jacob est de première importance. Elle contenait plusieurs promesses, dont celle-ci. Jésus le Christ naîtrait par la lignée d'Abraham. La postérité d'Abraham serait nombreuse, aurait le droit à un accroissement éternel et aurait également le droit de tenir la prêtrise. Abraham deviendrait le père de nombreuses nations. Certains pays seraient hérités par sa postérité. Toutes les nations de la terre seraient bénies par sa postérité. Et cette alliance devait être éternelle jusqu'à la millième génération. Certaines de ces promesses ont été accomplies. D'autres sont encore en cours d'accomplissement. Je cite une prophétie qui a été donnée au début du livre de Mormon. C'est pourquoi notre père Léhi n'a pas parlé de notre postérité seulement, mais aussi de toute la maison d'Israël, attirant l'attention sur l'alliance qui va s'accomplir dans les derniers jours. Alliance que le Seigneur a faite avec notre père Abraham. N'est-ce pas stupéfiant? Quelques 600 ans avant la naissance de Jésus à Bethléem, les prophètes savaient que l'alliance abrahamique ne serait finalement accomplie que dans les derniers jours. Pour rendre possible l'accomplissement de cette promesse, le Seigneur est apparu en ces derniers jours pour renouveler l'alliance abrahamique. Le maître a déclaré à Joseph Smith, le prophète, « Abraham reçut des promesses concernant sa postérité, le fruit de ses reins. Dès quel rein tu es, mon serviteur Joseph? Cette promesse est également pour toi, parce que tu es d'Abraham. » Avec ce renouvellement, nous avons reçu, comme ceux des temps anciens, la sainte prêtrise et l'évangile éternel. Nous avons le droit de recevoir la plénitude de l'Évangile ainsi que les bénédictions de la prêtrise et de nous qualifier pour la plus grande bénédiction de Dieu, la vie éternelle. Certains d'entre nous sont la postérité littérale d'Abraham. D'autres sont rassemblés dans sa famille par adoption. Le Seigneur ne fait pas de distinction. Ensemble, nous recevons ces bénédictions promises. Si nous recherchons le Seigneur et obéissons à ses commandements. Dans le cas contraire, nous perdons les bénédictions de l'Alliance. Pour nous aider, son Église procure des bénédictions patriarcales pour donner à chaque bénéficiaire une vision de son avenir, ainsi qu'un lien avec le passé, la déclaration de son lignage jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. Les frères de l'Alliance ont le droit de se qualifier pour le serment et l'alliance de la prêtrise. Si, par votre fidélité, vous obtenez ces deux prêtrises et que vous magnifiez votre appel, vous êtes sanctifiés par l'Esprit à tel point que votre corps est renouvelé. Ce n'est pas tout. Les hommes dignes qui reçoivent la prêtrise reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui reçoivent le Seigneur reçoivent Dieu le Père. Et ceux qui reçoivent le Père reçoivent tout ce qu'il a. En vertu de ce serment et de cette alliance, les hommes, les femmes et les enfants dignes du monde entier reçoivent des bénédictions incroyables. Nous avons la responsabilité de contribuer à l'accomplissement de l'alliance abrahamique. Notre postérité est celle qui a été préordonnée et préparée pour être une bénédiction pour tous les peuples du monde. C'est pour cela que le devoir de la prêtrise comprend l'œuvre missionnaire. Après environ 4 000 ans d'attente et de préparation, Nous voici au jour désigné où l'Évangile doit être apporté à toutes les familles de la terre. C'est le moment du rassemblement promis d'Israël. Et nous pouvons y participer. N'est-ce pas formidable? Le Seigneur compte sur nous et sur nos fils pour servir dignement en tant que missionnaires en cette grande époque du rassemblement d'Israël. Et il est profondément reconnaissant envers nos filles qui le font. Le livre de Mormon est un signe tangible que le Seigneur a commencé à rassembler ses enfants de l'Israël de l'Alliance. Ce livre, écrit pour notre époque, précise que l'un de ses objectifs est que nous sachions que l'Alliance que le Père a faite avec les enfants d'Israël commence déjà à s'accomplir. Il ajoute, « Car voici, le Seigneur se souviendra de l'alliance qu'il a faite avec son peuple de la maison d'Israël. » Fin de citation. Assurément, le Seigneur n'a pas oublié. Il nous a bénis, nous et d'autres dans le monde entier, grâce au livre de Mormon. L'un de ses objectifs est de convaincre Juifs et Gentils que Jésus et le Christ. Il nous aide à contracter des alliances avec Dieu. Il nous invite à nous souvenir de lui et à connaître son Fils bien-aimé. C'est un autre témoignage de Jésus-Christ. Les enfants de l'Alliance ont le droit de recevoir sa doctrine et de connaître le plan du salut. Ils exercent ce droit lorsqu'ils contractent des alliances d'une importance sacrée. Brigham Young a dit, « Tous les saints des derniers jours contractent la nouvelle alliance éternelle quand ils entrent dans l'Église. Ils contractent la nouvelle alliance éternelle de soutenir le royaume de Dieu. Ils respectent l'alliance en obéissant à ses commandements. » Au baptême, nous faisons alliance de servir le Seigneur et de respecter ses commandements. Quand nous prenons la Sainte Cène, nous renouvelons cette alliance et nous déclarons que nous sommes disposés à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. De ce fait, nous sommes adoptés comme ses fils et ses filles et nous sommes connus comme des frères et sœurs. Il est le Père de notre nouvelle vie. Finalement, dans le Saint-Temple, nous pouvons devenir co-héritiers des bénédictions d'une famille éternelle, comme cela fut promis à Abraham, Isaac, Jacob et à leur postérité. Ainsi, le mariage céleste est l'alliance de l'exaltation. Lorsque nous prenons conscience que nous sommes enfants de l'alliance, nous savons qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous. Sa loi est écrite dans notre cœur. Il est notre Dieu. Et nous sommes son peuple. Les enfants de l'Alliance engagée restent fermes, même au milieu de l'adversité. Quand cette doctrine est profondément implantée dans notre cœur, même l'aiguillon de la mort est adouci et notre résistance spirituelle est affermie. Le plus grand compliment que nous puissions mériter dans cette vie est d'être connu comme quelqu'un qui respecte ses alliances. Les récompenses de ce respect des alliances s'obtiennent à la fois ici et dans l'au-delà. L'Écriture déclare, « Méditez sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu, car voici, ils sont bénis en tout, et s'ils tiennent bon avec fidélité jusqu'à la fin, ils sont reçus dans le ciel et demeurent avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. » Dieu vit. Jésus est le Christ. Son Église a été rétablie afin d'être une bénédiction pour tous. Thomas S. Monson est son prophète aujourd'hui. Et nous, ses enfants de l'Alliance fidèle, nous serons bénis maintenant et pour toujours. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
What think ye of Christ?
Que pensez-vous du Christ?
C'est avec ces mots que Jésus a confondu les pharisiens de son époque. C'est avec ces mêmes mots que je demande à mes frères et sœurs saints des derniers jours et aux autres chrétiens ce qu'ils croient vraiment concernant Jésus-Christ et ce qu'ils font de cette croyance. La majeure partie de mes citations scripturaires seront issues de la Bible parce que la plupart des chrétiens la connaissent bien. Mes interprétations viendront bien sûr de ce que les Écritures modernes, et particulièrement le Livre de Mormon, nous enseignent concernant la signification de passages de la Bible, si ambiguës que les chrétiens ne s'accordent pas sur leur signification. Je m'adresse aux croyants, mais aussi aux autres personnes. Comme frère Callister nous l'a enseigné ce matin, certains qui se disent chrétiens louent Jésus comme étant un grand maître, mais évite d'affirmer sa divinité. Pour m'adresser à eux, j'ai utilisé les mots de Jésus lui-même. Nous devrions tous considérer ce qu'il a lui-même enseigné concernant qui il était et la raison pour laquelle il a été envoyé sur la terre. Jésus a enseigné qu'il était le Fils unique. Il a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde » qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu le Père l'a affirmé. Au summum de l'expérience sacrée sur le mont de la Transfiguration, il a déclaré des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus a aussi enseigné que son apparence était semblable à celle de son Père. À ses apôtres, il a dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Ainsi, l'apôtre Paul a décrit le Fils comme étant l'empreinte de sa personne, du Père. L'apôtre Jean écrit que Jésus, qu'il appelle la parole, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi, dans le cadre du plan du Père, Jésus-Christ a été le créateur de toutes choses. Pendant son ministère en Palestine, Jésus a déclaré qu'il était Jéhovah, le Seigneur Dieu d'Israël. Plus tard, en tant que Seigneur ressuscité, il a exercé son ministère auprès de son peuple sur le continent américain. Il y a déclaré, « Voici, je suis Jésus-Christ, dont les prophètes ont témoigné qu'il viendrait au monde. Je suis le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre. » Il y a bien des années, lors d'une conférence de pieux, j'ai rencontré une femme qui m'a dit qu'on lui avait demandé de revenir à l'église après de nombreuses années d'absence, mais qu'elle ne voyait vraiment pas pourquoi elle devrait le faire. Pour l'encourager, je lui ai dit, « Lorsque vous réfléchissez à toutes les choses que le Sauveur a faites pour nous, n'avez-vous pas de nombreuses raisons de revenir pour l'adorer et le servir ?» Sa réponse m'a étonné. « Qu'a-t-il fait pour moi ?» Pour les personnes qui ne comprennent pas ce que notre Sauveur a fait pour nous, je vais répondre à cette question en employant ses propres paroles et mon témoignage personnel. La Bible rapporte cet enseignement de Jésus. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Plus tard, dans le Nouveau Monde, il a déclaré, « Je suis la lumière et la vie du monde. » Il est la vie du monde parce qu'il est notre Créateur et parce que, grâce à sa résurrection, nous sommes tous assurés de vivre à nouveau. Et la vie qu'il nous donne n'est pas simplement la vie terrestre. Il a enseigné, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de mes mains. » Jésus a aussi enseigné, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Il a aussi déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le chemin et il est la lumière, parce que ses enseignements éclairent notre chemin dans la vie terrestre et nous montrent comment retourner au Père. Jésus a toujours honoré et suivi le Père. Alors qu'il n'était qu'un jeune homme, il a déclaré à ses parents terrestres, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il a dit plus tard, « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le Sauveur a enseigné, « Nul ne vient au Père que par moi. » Nous retournons au Père en faisant sa volonté. Jésus a déclaré, « Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il a expliqué, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, qui entrera dans le royaume des cieux ? Jésus a dit que ce ne seraient pas ceux qui se contentent de faire des œuvres merveilleuses en se servant du nom du Seigneur, mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Jésus nous a montré comment faire cela. À maintes reprises, il nous a demandé de le suivre. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Il a donné le pouvoir de la prêtrise à ses apôtres et à d'autres personnes. À Pierre, le premier des apôtres, il a dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Luc raconte que le Seigneur désigna 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Plus tard, ces 70 dirent joyeusement à Jésus, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Je suis témoin de ce pouvoir de la prêtrise. » À la fin de son ministère terrestre, Jésus a enseigné à ses apôtres, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il vous guidera dans toute la vérité. Il utilise aussi ses commandements pour nous guider. Ainsi, il a commandé aux Néphites de ne plus avoir de disputes au sujet des points de doctrine. Car, a-t-il dit, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais est du diable, qui est le père des querelles. Et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. Voici, ce n'est pas ma doctrine d'exciter le cœur des hommes à la colère les uns contre les autres, mais c'est ma doctrine que de telles choses soient abandonnées. Il nous incite aussi à nous concentrer sur lui, non pas sur les choses du monde. Dans son grand sermon sur le pain de vie, Jésus explique la différence entre la nourriture terrestre et la nourriture éternelle. Il a dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Le Sauveur a enseigné qu'il était le pain de vie, la source de la nourriture éternelle. Parlant de la nourriture terrestre que le monde donne, notamment de la manne que Jéhovah avait envoyée aux enfants d'Israël dans le désert, Jésus a enseigné que les personnes qui dépendaient de ce pain sont maintenant mortes. Par contre, la nourriture qu'il offrait était le pain vivant qui était descendu du ciel. Et il a enseigné, « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Certains de ses disciples dirent que cette parole était dure. Et à partir de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Apparemment, ils n'avaient pas accepté son enseignement précédent, selon lequel ils devaient rechercher premièrement le royaume de Dieu. Aujourd'hui encore, certaines personnes professant être chrétiennes sont plus attirées par les choses du monde, les choses qui entretiennent la vie sur la terre, mais qui ne nourrissent pas pour la vie éternelle. Pour certains, ces paroles dures sont toujours une raison de ne pas suivre le Christ. Le couronnement du ministère terrestre de notre Sauveur a été sa résurrection et son expiation pour les péchés du monde. Jean-Baptiste l'a prophétisé quand il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Par la suite, Jésus a enseigné que le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Selon le récit de Matthieu, lors de la dernière scène, Jésus a expliqué que le vin qu'il avait béni était son sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Quand il est apparu aux Néphites, le Seigneur ressuscité les a invités à s'approcher pour toucher la blessure dans son côté et les marques des clous dans ses mains et ses pieds. Il a expliqué pourquoi il faisait cela, afin que vous sachiez que je suis le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre, et que j'ai été mis à mort pour les péchés du monde. Le récit ajoute que la multitude tomba aux pieds de Jésus et l'adora. Pour cette raison, le monde entier finira par l'adorer. Jésus a enseigné d'autres vérités précieuses concernant son expiation. Le livre de Mormon, qui détaille davantage ce que le Sauveur a enseigné et donne la meilleure explication de sa mission, relate cet enseignement. « Mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, pour que j'attire tous les hommes à moi, pour être jugés selon leurs œuvres. Et quiconque se repent et est baptisé en mon nom sera rassasié. Et s'il persévère jusqu'à la fin, voici, je le tiendrai pour innocent devant mon Père en ce jour où je me tiendrai pour juger le monde. Et rien d'impur ne peut entrer dans le royaume du Père. C'est pourquoi rien n'entre dans son repos si ce n'est ceux qui ont lavé leurs vêtements dans mon sang, à cause de leur foi et du repentir de tous leurs péchés et de leur fidélité jusqu'à la fin. » Nous comprenons ainsi que l'expiation de Jésus-Christ nous donne l'occasion de surmonter la mort spirituelle qui résulte du péché, et en contractant et en respectant des alliances sacrées, d'avoir les bénédictions de la vie éternelle. Jésus a posé la question. Que pensez-vous du Christ? L'apôtre Paul a demandé aux Corinthiens, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Nous devons tous répondre à ces questions pour nous-mêmes. Où se trouve notre loyauté ultime? Ressemblons-nous aux chrétiens de la description mémorable de frère Maxwell qui avait emménagé à Sion, mais essayait encore de garder une résidence secondaire à Babylone? Il n'y a pas de zone neutre. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Notre citoyenneté est dans son Église et dans son Évangile. Et nous ne devrions pas utiliser de visa pour rendre visite à Babylone ou agir comme l'un de ses citoyens. Nous devons honorer son nom, respecter ses commandements et ne pas rechercher les choses de ce monde, mais chercher premièrement à édifier le royaume de Dieu et à faire régner sa justice. Jésus-Christ est le Fils unique et bien-aimé de Dieu. Il est notre Créateur. Il est la lumière du monde. Il est celui qui nous sauve du péché et de la mort. C'est la connaissance la plus importante sur la terre et vous pouvez savoir cela par vous-même, comme je le sais moi-même. Le Saint-Esprit, qui témoigne du Père et du Fils et nous conduit dans la vérité, m'a révélé ces vérités et il vous les révélera. Pour y parvenir, nous devons le désirer et obéir. Jésus a enseigné, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Et si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. » Je témoigne de la véracité de ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a des années, j'étais au centre de formation des missionnaires avec mon collègue lorsque j'ai entendu une voix d'enfant dire « Grand-maman, est-ce que ce sont des vrais missionnaires ?» Je me suis retourné et j'ai vu une petite fille tenant la main de sa grand-mère qui nous désignait, mon collègue et moi. La grand-mère a répondu « Oui, ma chérie, ce sont de vrais missionnaires. » J'ai souri et je lui ai tendu la main, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Bonjour, je m'appelle Frère Richardson et nous sommes de vrais missionnaires. » Elle avait un large sourire en se retournant et m'a regardé. Cette expérience a ravivé ma consécration.
Pendant les deux années qui ont suivi, j'ai travaillé dur pour ressembler davantage, agir davantage et particulièrement enseigner davantage comme un vrai missionnaire. À mon retour de mission, il est devenu de plus en plus apparent que bien que j'ai quitté ma mission, son influence ne m'a pas quitté. En fait, après toutes ces années, je trouve toujours que ma mission a été les deux plus belles années pour ma vie. Un écho inattendu de ma mission a été la voix de cette petite fille. Seulement, maintenant, j'entendais dans mon esprit « Grand-mère, est-ce un vrai détenteur de la prêtrise ? Grand-mère, est-ce un vrai mari ? Ou un vrai père ? Ou grand-mère, est-ce un vrai membre de l'Église ?» J'ai appris qu'une clé pour devenir vrai dans tous les aspects de notre vie est notre capacité d'enseigner de façon à ne pas restreindre l'apprentissage. Voyez-vous, une vie vraie requiert un apprentissage vrai qui dépend d'un enseignement vrai. La responsabilité d'enseigner efficacement ne se limite pas aux personnes qui sont appelées officiellement comme instructeurs. En fait, chaque membre de la famille, chaque dirigeant de l'Église et chaque membre de l'Église, y compris les jeunes et les enfants, a la responsabilité d'enseigner. Bien que nous soyons tous des instructeurs, nous devons être pleinement conscients que c'est le Saint-Esprit qui est l'instructeur et que c'est lui qui témoigne de toute vérité. Les personnes qui ne le comprennent pas pleinement essaient de remplacer le Saint-Esprit et de tout faire elles-mêmes, invitant poliment l'Esprit à être avec elles, mais seulement en rôle de soutien. Ou bien, elles croient laisser tout leur enseignement à l'initiative de l'Esprit, alors qu'en réalité, elles ne font qu'improviser. Tous les parents, dirigeants et instructeurs ont la responsabilité d'enseigner par l'Esprit. Ils ne doivent pas enseigner avant que l'Esprit ne soit présent ou après qu'il soit parti, mais par l'Esprit, afin qu'il enseigne la vérité sans être restreint. Moroni nous enseigne à comprendre comment nous pouvons enseigner par l'Esprit, sans remplacer, diluer ou écarter le Saint-Esprit qui doit être le véritable instructeur. Moroni a dit que les saints dirigeaient leurs réunions selon l'inspiration de l'Esprit. Cela demande davantage qu'avoir l'Esprit avec nous. Nous diriger selon l'inspiration du Saint-Esprit signifie qu'il se peut que nous devions changer la façon dont nous enseignons pour imiter la façon d'enseigner du Saint-Esprit. Quand nous calquons notre façon d'enseigner sur celle du Saint-Esprit, il peut enseigner et témoigner sans restriction. L'exemple suivant peut illustrer ce calque important. Il y a de nombreuses années, mes enfants et moi sommes montés au sommet de la South Sister, une montagne de 3157 mètres située en Oregon. Après plusieurs heures, nous avons rencontré une longue pente à 45 degrés constituée de minuscules galets volcaniques. Le sommet étant en vue, nous avons poursuivi pour nous apercevoir qu'à chaque pas, nos pieds s'enfonçaient dans les galets, nous faisant glisser de plusieurs centimètres vers l'arrière. Mon fils de 12 ans a continué à monter tandis que je restais avec ma fille de 8 ans. La fatigue et le découragement se sont bientôt installés et elle a eu un gros chagrin à l'idée qu'elle ne pourrait pas rejoindre son frère au sommet. Ma première impulsion a été de la porter. Mon esprit était bien disposé, mais malheureusement, ma chair était faible. Nous nous sommes assis sur les rochers, nous avons évalué notre situation et nous avons conçu un nouveau plan. Je lui ai dit de mettre les mains dans les poches revolver de mon pantalon, de bien s'agripper et surtout, dès que je levais le pied pour avancer, de se hâter de mettre le sien à la place du mien. Elle a suivi chacun de mes mouvements et a profité de l'impulsion qui lui était communiquée du fait qu'elle se tenait à mes poches. Après ce qui m'a semblé être une éternité, nous sommes arrivés au sommet de la montagne. Son expression de triomphe et de satisfaction n'avait pas de prix. Oui, son frère et elle étaient, à mon avis, de vrais randonneurs. Le succès de ma fille était le résultat de ses efforts diligents et de la façon dont elle s'appliquait à imiter ma façon de marcher. Elle a synchronisé ses mouvements avec les miens et nous avons acquis ensemble un rythme, ce qui m'a permis d'utiliser pleinement mon énergie. Il en est de même quand nous enseignons selon l'inspiration de l'Esprit. Quand nous calquons notre façon d'enseigner sur celle du Saint-Esprit, il nous fortifie. Et en même temps, il peut opérer sans restriction. En ayant cela à l'esprit, réfléchissons à deux inspirations de l'Esprit qui valent que nous les suivions. Premièrement, le Saint-Esprit instruit chacun de façon très personnelle. Cela nous permet de connaître intimement la vérité par nous-mêmes. Parce que nos besoins, notre situation et notre progression sont différents, le Saint-Esprit nous enseigne ce que nous devons savoir et faire pour devenir ce que nous devons être. Remarquez que bien que le Saint-Esprit enseigne la vérité de toutes choses, il n'enseigne pas toute la vérité en une seule fois. L'Esprit enseigne la vérité ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Les personnes qui enseignent à la manière de l'Esprit comprennent qu'elles instruisent des personnes, qu'elles ne font pas des leçons. Cela étant, elles surmontent l'envie d'enseigner tout ce qui se trouve dans un manuel ou tout ce qu'elles ont appris sur le sujet, et elles se concentrent sur les choses que les membres de leur famille ou de leur classe ont besoin de savoir et de faire. Les parents, les dirigeants et les instructeurs qui suivent l'exemple d'enseignement de l'Esprit apprennent vite que l'enseignement véritable exige bien plus que de parler et dire. En conséquence, ils s'arrêtent intentionnellement pour écouter, observer avec soin, puis discerner ce qu'il faut faire ensuite. Quand ils font cela, le Saint-Esprit peut alors enseigner à la fois aux apprenants et aux enseignants ce qu'ils doivent faire et dire. Deuxièmement, le Saint-Esprit enseigne en nous invitant, en nous incitant, en nous encourageant et en nous inspirant à agir. Le Christ nous a assuré que nous apprenons la véracité de la doctrine en la mettant en pratique. L'Esprit nous dirige, nous guide et nous montre ce que nous devons faire. Cependant, il ne fait pas pour nous ce que nous seuls pouvons faire pour nous-mêmes. Vous voyez, le Saint-Esprit ne peut pas apprendre pour nous, ressentir pour nous ou agir pour nous, parce que ce serait contraire à la doctrine du libre arbitre. Il peut nous présenter des occasions et nous inviter à apprendre, à ressentir et à agir. Les personnes qui enseignent ainsi, selon l'Esprit, aident les autres en les invitant à exercer leur libre arbitre, en les y encourageant et en leur fournissant des occasions de le faire. Les parents, les dirigeants et les instructeurs se rendent compte qu'ils ne peuvent ressentir, apprendre ou même se repentir pour les membres de leur famille, de leur assemblée ou de leur classe. Au lieu de demander « Que puis-je faire pour mes enfants, les membres de ma classe ou d'autres personnes ?» ils demandent « Comment puis-je inviter et aider les personnes qui m'entourent à apprendre par elles-mêmes ?» Les parents qui reflètent l'inspiration du Saint-Esprit créent un foyer où les membres de la famille apprennent à chérir les principes plutôt que simplement en entendre parler. De la même façon, au lieu de ne faire que parler de points de doctrine, les enseignants aident les apprenants à les comprendre et à les vivre. Le Saint-Esprit peut agir librement quand les personnes exercent leur libre arbitre comme il convient. L'état actuel du monde étant ce qu'il est, nous avons désespérément besoin de vraiment apprendre et enseigner dans notre foyer, nos réunions et nos classes de l'Évangile. Je sais que votre recherche pour vous améliorer peut parfois sembler écrasante. Ne soyez pas découragés devant votre peu de progrès. Je repense à mon expérience de randonnée avec mes enfants. Nous avions convenu que chaque fois que nous nous arrêterions pour reprendre notre souffle, au lieu de nous concentrer uniquement sur la distance qui nous reste à parcourir, nous nous retournerions immédiatement pour regarder en bas. Nous admirerions le paysage et nous dirions l'un à l'autre, « Regarde jusqu'où nous sommes arrivés. » Puis, nous prendrions une grande respiration, nous nous tournerions rapidement face à la montagne et recommencerions à grimper un pas à la fois. Frères et sœurs, vous pouvez jouer votre rôle de parent, diriger et enseigner selon l'inspiration de l'Esprit. Je sais que vous le pouvez et je sais que des vies changeront. De véritables instructeurs qui ont enseigné avec l'Esprit et particulièrement par l'Esprit ont été une bénédiction dans ma vie. Je vous invite à calquer votre façon d'enseigner sur celle du Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur et que son Évangile est rétabli. C'est la raison pour laquelle nous devons être de vrais parents, de vrais enseignants et de vrais apprenants. Je témoigne que Dieu vous aidera dans vos efforts au nom sacré de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Le chœur et l'assemblée chanteront maintenant « Vivons ce bonheur ». Après quoi, nous entendrons Katsuhiko Yamashita, Randall K. Bennett et J. Devin Cornish, D70. Quentin L. Cook, du Collège des Douze Apôtres, nous adressera ensuite la parole.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Un soir, il y a un certain nombre d'années, un missionnaire fraîchement appelé en mission du nom de Swan et son collègue aîné japonais sont venus nous voir. Heureusement, j'étais à la maison. Je les ai donc invités à entrer. Quand je les ai accueillis à la porte, mon attention s'est portée sur le par-dessus de frère Swan. Sans réfléchir, je lui ai dit « C'est un très beau par-dessus que vous avez là. » Or, s'il n'était pas neuf, il était plutôt décoloré. J'ai supposé que le par-dessus avait été laissé dans leur appartement par un missionnaire qui l'avait précédé. Frère Swan a réagi immédiatement à mes paroles et de manière complètement à l'opposé de ce que j'avais pensé. Dans un japonais hésitant, il a répondu « Oui, c'est un bon par-dessus ». Mon père le portait lorsqu'il est parti en mission au Japon il y a plus de 20 ans. Son père avait œuvré dans la mission d'Okayama. Et lorsque son fils était parti en mission au Japon, il lui avait donné ce par-dessus. Cette photo montre le par-dessus que deux générations de missionnaires de la famille Swan ont porté au Japon. J'ai été touché lorsque j'ai entendu les paroles de frère Swan et je comprenais maintenant pourquoi il portait le par-dessus de son père en faisant du prosélytisme. Il avait commencé sa mission avec l'amour qu'il avait hérité de son père envers le Japon et son peuple. Je suis sûr que certains d'entre vous ont vécu quelque chose de semblable. Un certain nombre de missionnaires qui œuvrent au Japon m'ont dit que leur père, leur mère, leur grand-père ou leurs oncles étaient aussi partis en mission au Japon. Je voudrais exprimer mon amour, mon respect et ma reconnaissance sincère à tous les anciens missionnaires qui ont œuvré à travers le monde. Je suis certain que ceux que vous avez aidés à se convertir ne vous ont pas oublié. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Je fais partie de ces convertis. Je me suis converti à 17 ans, alors que j'étais au lycée. Le missionnaire qui m'a baptisé s'appelait frère Rupp et venait d'Idaho. Il a récemment été relevé de son appel de président de Pew en Idaho. Je ne l'ai pas revu depuis mon baptême, mais nous avons échangé des emails et nous nous sommes parlé au téléphone. Je ne l'ai jamais oublié. Son visage bienveillant et souriant est gravé dans ma mémoire. Il était si heureux d'apprendre que j'allais bien. À 17 ans, je n'avais pas vraiment une bonne compréhension des messages que les missionnaires m'enseignaient. Cependant, je ressentais quelque chose de particulier au sujet des missionnaires. Je voulais devenir comme eux, et je ressentais leur amour profond et indéfectible. Je voudrais vous parler du jour de mon baptême. C'était le 15 juillet et il faisait très chaud. Une femme s'est aussi fait baptiser ce jour-là. Les fonts baptismaux avaient été assemblés manuellement par les missionnaires et ne ressemblaient pas à grand-chose. Nous avons été confirmés juste après notre baptême. Frère Lloyd a tout d'abord confirmé une sœur. Je me suis assis à côté des autres membres, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté en silence. Il l'a confirmé et s'est mis ensuite à lui donner une bénédiction. Toutefois, il s'est arrêté de parler. Alors j'ai ouvert les yeux et je les ai regardés intensément. Aujourd'hui encore, je me souviens très clairement de cette scène. Les larmes lui coulaient des yeux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti ce que c'était d'être enveloppé par le Saint-Esprit. et par le Saint-Esprit, j'ai acquis la connaissance certaine que frère Lloyd nous aimait et que Dieu nous aimait. Cela a ensuite été à mon tour d'être confirmé. Frère Lloyd l'a fait aussi. Il a mis les mains sur ma tête pour me confirmer membre de l'Église, m'a octroyé le don du Saint-Esprit et a commencé ensuite à me donner une bénédiction. Et à nouveau, il s'est arrêté de parler. Mais maintenant, je comprenais ce qui se passait. Je savais véritablement par le Saint-Esprit que les missionnaires m'aimaient et que Dieu m'aimait. Je vais maintenant dire quelques mots aux missionnaires qui sont actuellement en service à travers le monde. Votre comportement et l'amour que vous manifestez à l'égard des autres sont des messages très importants. Bien que ne comprenant pas immédiatement toute la doctrine que les missionnaires m'enseignaient, je ressentais leur grand amour et leurs nombreux gestes de gentillesse m'enseignaient des leçons importantes. Votre message est un message d'amour, d'espérance et de foi. Votre comportement et vos actions favorisent la présence de l'Esprit, et l'Esprit nous permet de comprendre ce qui est important. Ce que je veux vous dire, c'est que par votre amour, vous transmettez l'amour de Dieu. Vous êtes un trésor pour l'Église. Je vous suis à tous extrêmement reconnaissant pour votre sacrifice et votre dévouement. J'aimerais également vous parler à vous, futurs missionnaires. Dans ma propre famille, 4 de nos enfants ont rempli une mission et à la fin du mois, notre 5e enfant entrera au centre de formation missionnaire de Provo. Notre petit dernier prévoit de partir en mission l'année prochaine après avoir fini le lycée. Je parle donc à mes fils et à vous tous qui vous préparez à partir en mission. Il vous faut apporter 3 choses en mission. 1. Le désir de prêcher l'Évangile. Le Seigneur veut que vous recherchiez ses brebis et les trouviez. Des personnes vous attendent de par le monde. Dépêchez-vous, je vous en prie, d'aller les rejoindre. Personne ne s'efforce davantage que les missionnaires de secourir les autres. Je suis l'un de ceux qui ont été secourus. 2. Développez votre témoignage. Le Seigneur exige votre cœur et un esprit bien disposé. 3. Aimez votre prochain. Tout comme frère Swan qui a apporté avec lui en mission le par-dessus de son père et son amour pour le Japon et son peuple. Et vous qui ne savez pas comment vous préparer à partir en mission, je vous en prie, allez voir votre évêque. Je sais qu'il vous aidera. Je suis reconnaissant que les missionnaires soient appelés par le Seigneur, qu'ils répondent à cet appel et qu'ils œuvrent de par le monde. Permettez-moi de vous dire à tous, chers anciens missionnaires, que je suis vraiment reconnaissant pour tous vos efforts. Vous êtes un trésor pour l'Église. Et puissiez-vous toujours être des missionnaires et agir comme des disciples du Christ. Je témoigne que nous sommes les enfants de Dieu, notre Père, qui nous aime et qui l'a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour que nous puissions retourner en sa présence. Je dis ces choses au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Il y a plusieurs années, alors que j'étais sur la plage avec ma famille, j'ai remarqué des panneaux et des drapeaux nous avertissant qu'un fort courant partait du rivage en direction des eaux profondes et turbulentes. invisible à mes yeux de non-initié, mais facilement détecté par les sauveteurs sur la tour de surveillance voisine. Le courant puissant représentait un danger pour quiconque quittait la sûreté de la plage pour entrer dans l'eau. Je me souviens de m'être dit, pour me justifier, « Je suis un excellent nageur. Nager sera un très bon exercice. Je serai en sécurité dans les eaux peu profondes. » Ne tenant pas compte des avertissements et me fiant mon propre jugement, je suis entré dans l'eau pour goûter une baignade rafraîchissante. Après quelques minutes, j'ai cherché du regard où était ma famille sur la plage à proximité, mais la plage n'était plus à proximité. Le courant trompeur contre lequel on m'avait mis en garde m'avait saisi et m'éloignait rapidement de ma famille. D'abord avec confiance, puis désespérément, j'ai essayé de nager vers le rivage, mais le courant implacable me tirait de plus en plus vers des eaux profondes et houleuses. Épuisé, j'ai commencé à suffoquer à cause de l'eau que j'avalais. La noyade était devenue une éventualité réelle. À bout de force, j'ai finalement et frénétiquement crié à l'aide. Miraculeusement, semblait-il, un sauveteur s'est retrouvé immédiatement à mes côtés. Je ne savais pas qu'il m'avait suivi des yeux quand j'étais entré dans l'eau. Il savait que le courant allait me saisir et il savait où il m'entraînerait. Il l'avait contourné à la nage pour arriver à un endroit qui se trouvait un peu plus loin de l'endroit où je me débattais. Puis, il avait patiemment attendu que j'appelle à l'aide. Trop faible pour nager seul jusqu'au rivage, j'étais reconnaissant de son secours. Sans son aide, je n'aurais jamais pu revenir vers ma famille. Ce jour-là, j'ai fait un mauvais choix qui aurait pu avoir des conséquences graves pour moi et pour ma famille. Nous allons aborder ensemble le don de faire des choix. Et je prie pour que le Saint-Esprit aide chacun d'entre nous à évaluer les choix que nous faisons. Notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson, a enseigné, « Je ne saurais trop souligner que ce sont les décisions qui déterminent le destin. On ne peut prendre de décisions à la portée éternelle sans conséquences qui ont une portée éternelle. Chacun de nous est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes. Vous avez une nature et une destinée divine. Durant votre vie prémortelle, vous avez appris à aimer la vérité. Vous avez fait de bons choix éternels. Vous saviez qu'ici, dans la condition mortelle, il y aurait des afflictions et de l'adversité, du chagrin et de la souffrance, des épreuves pour vous aider à progresser. Vous saviez aussi que vous pourriez continuer à faire de bons choix, vous repentir de vos mauvais choix et, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, hériter de la vie éternelle. Qu'est-ce que le prophète Lehi a enseigné à propos du choix? Il a dit que nous sommes libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes ou de choisir la captivité et la mort selon la captivité et le pouvoir du diable. Puis il a ajouté, « Je voudrais que vous tourniez vers le grand médiateur et écoutiez ses grands commandements et choisissiez la vie éternelle. » Mes frères et sœurs, en quoi ce que nous choisissons de penser, de ressentir, de faire, nous permet-il de choisir la vie éternelle? Nos petits-enfants sont en train d'apprendre que lorsqu'ils font un choix, ils choisissent aussi ses conséquences. Récemment, l'une de nos petites filles de 3 ans a refusé de manger son repas. Sa mère lui a expliqué, « C'est presque l'heure d'aller au lit. Si tu choisis de manger ton repas, tu choisis de la glace pour le dessert. Si tu choisis de ne pas manger ton repas, tu choisis d'aller au lit maintenant sans manger de glace. » Notre petite fille a répondu énergiquement, « Je veux ce choix, jouer et manger seulement de la glace et ne pas aller au lit. » Nous souhaiterions-nous pas pouvoir jouer, manger seulement de la glace, ne jamais aller nous coucher et, d'une manière ou d'une autre, en éviter les conséquences comme la malnutrition et l'épuisement? En réalité, nous n'avons que 2 choix éternels, chacun ayant des conséquences éternelles. Choisir de suivre le Sauveur du monde et ainsi choisir la vie éternelle avec Dieu, ou bien choisir de suivre le monde et ainsi choisir de nous séparer de Dieu éternellement. Nous ne pouvons pas choisir à la fois la sécurité d'une vie juste et les dangers des voies du monde. Il peut sembler sans danger d'avancer vers le monde, mais ma baignade rafraîchissante le paraissait aussi. Comme le courant qui aurait pu changer le cours de la vie des membres de ma famille, les courants actuels du monde, les philosophies trompeuses, les faux enseignements et l'immoralité effrénée cherchent à nous arracher à notre famille et à notre Père Céleste et à nous séparer d'eux éternellement. Nos prophètes, voyeurs et révélateurs vivants voient les courants du monde, souvent subtils mais dangereux, qui nous menacent et cherchent à nous en avertir. Avec amour, ils nous invitent, nous encouragent, nous instruisent, nous rappellent à l'ordre et nous avertissent. Ils savent que notre sécurité dépend de notre choix de suivre, premièrement, la vision que nous obtenons grâce à la lecture quotidienne des Écritures et à la prière, l'inspiration du Saint-Esprit et leurs conseils prophétiques. Ils savent qu'on ne trouve la sécurité et finalement la joie que dans et par notre Sauveur Jésus-Christ et le respect de son Évangile. Comme Elder Oaks l'a dit, il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pendant l'adversité et la souffrance de la Russie post-soviétique, Anatoly Svetlanar et Reshetnikov ont préféré la justice aux choses du monde. Après s'être joints à l'Église, ils ont été persécutés. Frère Reshetnikov a été rétrogradé à son travail. Vaillamment, sa femme et lui ont pensé « Maintenant, ils ont plus de temps pour servir Dieu. » Ils ont reçu des menaces répétées, mais ils ont choisi de mener une vie centrée sur l'Évangile. Anatoly Reshetnikov a été appelé comme premier 70 d'interrégion russe. Par leur choix, les Reshetnikov continuent de choisir la vie éternelle. Nous rencontrons tous l'adversité, nous avons tous des tentations, nous avons tous fait des erreurs. Il n'est jamais trop dur, ni trop tard, pour faire de bons choix. Le repentir est l'un de ces bons choix cruciaux. Dieter F. Uchtdorf a enseigné, « De petites erreurs et de légers écarts par rapport à la doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ peuvent avoir de tristes conséquences pour nous. Il est donc d'une importance capitale de faire preuve d'assez d'autodiscipline pour effectuer rapidement des corrections décisives afin de retourner sur la bonne trajectoire et de ne pas attendre ni espérer que les erreurs vont se corriger toutes seules d'une manière ou d'une autre. Plus nous attendons avant d'agir, plus les changements nécessaires seront importants et plus il nous faudra de temps pour revenir sur la bonne trajectoire, au point même qu'un désastre pourrait nous attendre. Les bras de la miséricorde du Sauveur sont toujours tendus vers chacun de nous. Lorsque nous repentons sincèrement et complètement, nous pouvons être complètement pardonnés de nos fautes et le Sauveur ne se souviendra plus de nos péchés. En évaluant vos choix et leurs conséquences, vous pouvez vous demander, est-ce que je recherche la direction divine à travers l'étude quotidienne des Écritures et la prière? Ou ai-je décidé d'être si occupé ou apathique que je ne prends pas le temps d'étudier les paroles du Christ et de converser avec mon Père Céleste? Est-ce que je choisis de suivre les recommandations des prophètes vivants de Dieu? Ou suis-je en train de suivre les voies du monde et les avis opposés d'autres personnes? Est-ce que je recherche l'inspiration du Saint-Esprit chaque jour dans ce que je choisis de penser, de ressentir et de faire? Est-ce que je me tourne constamment vers les autres pour les aider, les servir et participer à leur sauvetage? Mes chers frères et sœurs, votre destinée éternelle ne sera pas le résultat du hasard, mais celui de vos choix. Il n'est jamais trop tard pour commencer à choisir la vie éternelle. Je témoigne que, grâce au grand plan de bonheur de notre Père Céleste, chacun de nous peut être rendu parfait par l'expiation de Jésus-Christ. Avec notre famille, nous pouvons retourner vivre éternellement avec notre Père Céleste et recevoir une plénitude de joie. J'en témoigne. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Chers frères et sœurs, Dieu notre Père n'est pas un sentiment, ni une idée, ni une force. Il est un personnage saint qui, comme les Écritures l'enseignent, a un visage, des mains et un corps glorieux ressuscité. Il est réel. Il connaît chacun de nous individuellement. Il nous aime tous. Il veut nous bénir. Jésus a dit, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Une expérience personnelle m'aidera peut-être à illustrer ce point. Lorsque j'étais jeune interne à l'hôpital pour enfants de Boston, je travaillais de longues heures et la plupart du temps faisais à vélo le trajet entre l'hôpital et notre maison à Waterton, Massachusetts, parce que ma femme et mes enfants avaient besoin de la voiture. Un soir où je rentrais chez moi, après avoir fait une longue garde à l'hôpital, j'étais fatigué, affamé et assez découragé. Je savais qu'en arrivant à la maison, je devrais apporter à ma femme et à nos quatre enfants non seulement mon temps et mon énergie, mais aussi une attitude joyeuse. Franchement, j'avais du mal à continuer à pédaler. En chemin, je devais passer devant un restaurant vendant du poulet frit. Et j'avais l'impression que ce serait bien moins que je serais bien moins affamé et fatigué si je pouvais m'arrêter pour acheter un morceau de poulet à manger en chemin. Je savais qu'il y avait une promotion sur des cuisses et des pilons à 29 cents la pièce. Mais en fouillant dans mon porte-monnaie, j'ai vu que je n'avais que 5 cents. En poursuivant ma route, j'ai parlé au Seigneur de ma situation et lui ai demandé si, dans sa miséricorde, il pourrait me permettre de trouver une pièce de 25 cents au bord du chemin. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de cela comme d'un signe, mais que je serais vraiment reconnaissant si, dans sa bonté, il pouvait m'accorder cette bénédiction. J'ai commencé à scruter le sol plus attentivement, mais n'ai rien vu. Essayant de garder une attitude pleine de foi, mais soumise, tout en poursuivant ma route, je m'approchais du restaurant. C'est alors que, sur le trottoir, presque exactement en face du restaurant, j'ai vu une pièce de 25 cents sur le sol. Avec gratitude et soulagement, je l'ai ramassée, j'ai acheté le poulet, j'en ai savouré chaque bouchée et j'ai pédalé joyeusement jusqu'à la maison. Dans sa miséricorde, le Dieu des cieux, le Créateur et Gouverneur de toutes choses, où qu'elles soient, avait entendu une prière au sujet d'une chose très mineure. On pourrait très bien se demander pourquoi il se soucierait de quelque chose d'aussi insignifiant. Je suis poussé à croire que notre Père Céleste nous aime tant que les choses qui sont importantes pour nous deviennent importantes pour lui, simplement parce qu'il nous aime. Ne voudrait-il pas nous aider bien plus encore pour les choses importantes que nous demandons si elles sont justes ? Petits enfants, jeunes, et vous aussi adultes, veuillez s'il vous plaît croire que votre Père Céleste aimant veut vous bénir. Mais parce qu'il ne veut pas empiéter sur notre libre arbitre, nous devons lui demander son aide. Cela se fait généralement par la prière. La prière est l'un des dons les plus précieux de Dieu à l'homme. Un jour, les disciples de Jésus lui demandèrent « Enseigne-nous à prier ». En réponse, Jésus nous a donné un exemple qui peut servir de guide à des principes clés de la prière. Selon l'exemple de Jésus, nous commençons par nous adresser à notre Père Céleste, notre Père qui est aux cieux. Nous avons l'honneur de pouvoir nous adresser directement à notre Père. Nous n'adressons de prière à personne d'autre. Souvenez-vous qu'on nous a conseillé d'éviter les vaines répétitions, y compris l'utilisation du nom de notre Père trop souvent lorsque nous prions. Que ton nom soit sanctifié. Jésus s'adresse à son Père dans une attitude d'adoration, reconnaissant sa grandeur, puis le louant et le remerciant. Assurément, le fait de vénérer Dieu et de le remercier sincèrement et spécifiquement est l'une des clés de l'efficacité de la prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous reconnaissons librement notre dépendance vis-à-vis de notre Père Céleste et exprimons notre désir de faire sa volonté, même si elle est différente de la nôtre. Le dictionnaire biblique anglais indique « La prière est l'acte par lequel la volonté du Père et celle de l'enfant sont mises en correspondance. Le but de la prière n'est pas de changer la volonté de Dieu, mais d'obtenir pour nous-mêmes et pour d'autres des bénédictions que Dieu est déjà disposé à accorder, à la condition que nous les demandions. » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous demandons au Seigneur les choses que nous souhaitons. L'honnêteté est essentielle dans nos demandes à Dieu. Il ne serait pas totalement honnête, par exemple, de demander de l'aide pour un examen scolaire si nous n'avons pas été attentifs en classe, ou si nous n'avons pas fait les devoirs demandés, ou si nous n'avons pas étudié le sujet. Souvent, lorsque je prie, l'Esprit m'incite doucement
à admettre que je devrais en faire plus pour recevoir l'aide que je demande au Seigneur. Ensuite, je dois m'engager à faire ma part. Il est contraire au système céleste que le Seigneur fasse pour nous ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Pardonne-nous nos offenses, ou dans une autre version, pardonne-nous nos péchés. Une partie essentielle est parfois oubliée de notre prière personnelle est le repentir. Pour que le repentir opère, il doit être précis, sincère et durable. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le Sauveur a établi un lien clair entre le fait de recevoir le pardon de nos péchés et celui de pardonner à ceux qui nous ont causé du tort. Parfois, le mal que les autres nous ont fait est très, très douloureux et très difficile à pardonner ou à oublier. Je suis extrêmement reconnaissant du réconfort et de la guérison que j'ai trouvé dans l'invitation du Seigneur à abandonner nos blessures et à les lui confier. Dans Doctrine et Alliance 64, il dit « Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. » Et vous devriez dire en votre cœur que Dieu juge entre toi et moi et te récompense selon tes actes. Puis nous devons complètement abandonner ce sujet, laissant le Seigneur le prendre en main si nous désirons être guéris. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ainsi, dans nos prières, nous pouvons entamer le processus protecteur consistant à revêtir toutes les armes de Dieu, en nous réjouissant des jours à venir et en demandant de l'aide pour les choses parfois effrayantes que nous devrons peut-être affronter. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas de demander au Seigneur de vous protéger, d'être avec vous. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Il est vraiment instructif que Jésus ait conclu cette prière en louant à nouveau Dieu et en exprimant son respect et sa soumission au Père. Lorsque nous croyons réellement que Dieu gouverne son royaume, et qu'il a tout pouvoir et toute gloire, nous reconnaissons qu'il est réellement aux commandes, qu'il nous aime d'un amour parfait et qu'il veut que nous soyons heureux. J'ai découvert que l'un des secrets d'une vie joyeuse est d'être conscient que faire les choses à la manière du Seigneur me rendra plus heureux que de les faire à ma manière. Il est possible qu'on ne se sente pas assez pur pour prier. Cette idée vient de cet esprit mauvais qui nous enseigne à ne pas prier. Il est aussi dangereux pour nous de croire que nous sommes trop pécheurs pour prier que pour une personne gravement malade de croire qu'elle est trop malade pour aller chez le médecin. Nous ne devons pas imaginer qu'une prière, aussi sincère soit-elle, sera très efficace si nous nous contentons de la faire. Nous ne devons pas simplement faire des prières, nous devons aussi les vivre. La personne qui prie puis se met au travail plaît bien davantage au Seigneur que celle qui se contente de prier. Comme pour les médicaments, la prière n'opère que lorsque nous suivons l'ordonnance. Lorsque je dis que la prière est une douce faveur, ce n'est pas seulement parce que je suis reconnaissant de pouvoir parler à mon Père Céleste et ressentir son esprit quand je prie, c'est aussi parce qu'il répond réellement et nous parle. Bien sûr, il ne s'exprime généralement pas par une voix audible. Le président Packer a expliqué « Cette voix douce et discrète qui apporte l'inspiration se manifeste davantage sous la forme d'un sentiment que sous la forme d'un son. » Elle peut transmettre de l'intelligence pure à notre esprit. Cette direction se manifeste sous la forme de pensées et de sentiments, par des incitations et des impressions. Parfois, nous semblons ne pas recevoir de réponse à nos prières sincères et ferventes. Il faut de la foi pour se souvenir que le Seigneur répond en son temps et à sa manière afin de nous bénir au mieux. Ou après mûre réflexion, nous nous rendons souvent compte que nous savons déjà parfaitement ce que nous devons faire. S'il vous plaît, ne vous découragez pas si pour vous, cela ne marche pas du premier coup. Comme pour l'apprentissage d'une langue étrangère, il faut de la pratique et des efforts. Sachez que vous pouvez apprendre le langage de l'esprit et, en l'apprenant, vous acquérez une grande foi et un grand pouvoir en justice. Je chéris le conseil de notre prophète bien-aimé Thomas Monson qui a dit « Vous qui m'entendez et qui avez des difficultés, grandes ou petites, sachez que la prière donne de la force spirituelle. C'est le passeport pour la paix. La prière est le moyen par lequel nous nous adressons à notre Père Céleste qui nous aime. Parlez-lui en prière, puis écoutez la réponse. La prière accomplit des miracles. Je suis profondément reconnaissant de la faveur de pouvoir m'adresser à mon Père Céleste en prière. Je suis reconnaissant pour les innombrables fois où il a entendu mes prières et y a répondu. Parce qu'il me répond, même parfois de manière prophétique et miraculeuse, je sais qu'il vit. Je témoigne aussi humblement que Jésus, son Fils unique, est notre Sauveur vivant. Nous sommes dans son Église et son royaume sur la terre. Cette œuvre est vraie. Thomas S. Monson, pour qui nous prions avec ferveur, est son prophète. Je témoigne de ces choses avec une complète certitude. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Many people face significant.
De nombreuses personnes affrontent des problèmes importants et même des tragédies pendant ce parcours dans la condition mortelle. Dans le monde entier, nous voyons des exemples d'épreuves et de tribulations. Notre âme est touchée par les images de mort, de souffrance aiguë et de désespoir à la télévision. Nous voyons les Japonais lutter avec héroïsme contre les dévastations d'un tremblement de terre et d'un tsunami. Les scènes de la destruction des tours du World Trade Center, que nous avons récemment revues, ont été douloureuses à revivre. Quelque chose nous remue lorsque nous sommes mis au courant de telles tragédies, particulièrement lorsqu'elles sont subies par des innocents. Les tragédies sont parfois très personnelles. Un fils ou une fille décède prématurément ou est victime d'une maladie dévastatrice. Un parent aimant perd la vie à cause d'un acte irréfléchi ou d'un accident. Quand la tragédie arrive, nous sommes tristes et nous essayons de porter les fardeaux les uns des autres. Nous regrettons amèrement les choses qui ne s'accompliront pas et les chants qui ne seront pas chantés. Voici quelques-unes des questions les plus souvent posées aux dirigeants de l'Église. Pourquoi un Dieu juste permet-il que de mauvaises choses arrivent, particulièrement à des gens bien? Pourquoi les personnes qui sont justes et au service du Seigneur ne sont-elles pas à l'abri de telles tragédies? Bien que nous n'ayons pas toutes les réponses, nous connaissons des principes importants qui nous permettent d'affronter les tragédies avec la foi et la confiance qu'un brillant avenir est prévu pour chacun de nous. Voici quelques-uns des principes les plus importants. Premièrement, nous avons un Père céleste qui nous connaît personnellement, nous aime et comprend parfaitement nos souffrances. Deuxièmement, son Fils Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur, dont l'expiation non seulement apporte le salut et l'exaltation, mais également compensera toutes les injustices de la vie. Troisièmement, le plan du bonheur du Père pour ses enfants comprend non seulement la vie prémortelle et la condition mortelle, mais aussi la vie éternelle, notamment une grande et glorieuse réunion avec les êtres que nous avons perdus. Tous les torts seront redressés et nous verrons avec une clarté parfaite, ainsi qu'une perspective et une compréhension sans faille. De la perspective limitée des gens qui n'ont pas la connaissance, la compréhension ou la foi au plan du Père, qui ne voient le monde qu'à travers les yeux de la condition mortelle avec ses guerres, ses maladies et ses maux, cette vie peut sembler déprimante, chaotique, injuste et dénuée de sens. Les dirigeants de l'Église ont comparé cette perspective à quelqu'un qui arriverait au milieu d'une pièce en trois actes. Les gens qui n'ont pas connaissance du plan du Père ne comprennent pas ce qui s'est passé au premier acte, l'existence prémortelle et les buts qui y ont été fixés. Ils ne comprennent pas non plus les éclaircissements et les solutions qui arrivent au troisième acte, qui est l'accomplissement glorieux du plan du Père. Beaucoup ne se rendent pas compte que dans son plan aimant et universel, les gens qui semblent désavantagés, sans qu'ils y soient pour rien, ne seront pas pénalisés à la fin. Dans quelques mois, cela fera 100 ans qu'a eu lieu le naufrage tragique du Titanic. Les circonstances calamiteuses qui ont entouré cet événement horrible sont restées dans les mémoires depuis un siècle. Les promoteurs de ce nouveau paquebot de luxe de 11 étages et presque aussi long que 3 terrains de football ont fait des déclarations excessives et injustifiées à propos de l'invulnérabilité du Titanic dans les eaux hivernales remplies d'icebergs. Ce navire était prétendument insubmersible et pourtant, lorsqu'il glissa sous la surface de l'océan Atlantique glacial, plus de 1500 âmes perdirent la vie. À de nombreux égards, le naufrage du Titanic est une métaphore de la vie et de nombreux principes de l'Évangile. C'est l'exemple parfait de la difficulté de ne regarder qu'à travers le prisme de notre condition mortelle. La perte de ses vies a été catastrophique de par ses conséquences, mais elle fut de nature accidentelle. Avec le carnage de deux guerres mondiales et le 10e anniversaire de la destruction des tours du World Trade Center qui vient juste d'avoir lieu, nous avons eu à notre époque même un aperçu du choc, de la souffrance et des problèmes moraux entourant des événements découlant du mauvais usage du libre-arbitre. Ces tragédies, quelle qu'en soit la cause, ont des répercussions terribles sur la famille, les amis et les nations. En ce qui concerne le Titanic, on a tiré des leçons sur les dangers de l'orgueil et de la navigation en eau trouble et sur le fait que Dieu ne fait point exception de personne. Les gens qui ont péri venaient de tous les horizons de la vie. Certains étaient riches et célèbres, comme John Jacob Astor, mais il y avait aussi des ouvriers, des émigrants, des femmes, des enfants et des membres de l'équipage. Il y a eu au moins deux liens entre des membres de l'Église et le Titanic. Les deux illustrent la difficulté que nous avons à comprendre les épreuves, les tribulations et les tragédies et donnent un aperçu sur la façon de les traiter. Le premier est un exemple de reconnaissance pour les bénédictions que nous recevons et les problèmes que nous évitons. Il concerne Almasson, qui plus tard est devenu autorité générale. Il était mon président de pieu lorsque je suis né à Logan, en Utah, aux États-Unis. J'ai eu mon entretien missionnaire avec Frerson. À cette époque, tous les futurs missionnaires avaient un entretien avec une autorité générale. Il a eu une grande influence dans ma vie. Lorsqu'Alma était jeune homme, il avait un ami qui n'était pas très pratiquant dans l'Église. Ils ont eu de nombreuses discussions sur le sujet de la mission, et finalement Almasson a convaincu Fred de se préparer à en faire une. Ils ont tous les deux été appelés dans la mission britannique. À la fin de leur mission, Frerson, secrétaire de la mission, a organisé leur voyage de retour aux États-Unis. Il a réservé des places sur le Titanic pour lui, Fred, et quatre autres missionnaires qui avaient aussi terminé leur mission. Au moment du départ, Fred a été retardé. Frerson a annulé les 6 réservations sur le nouveau paquebot de luxe pour son voyage inaugural et a réservé des places sur un navire qui partait le lendemain. Les 4 missionnaires, qui étaient enthousiasmés par l'idée de voyager sur le Titanic, ont manifesté leur déception. La réponse de Frerson paraphrase le récit de Joseph et de ses frères en Égypte qui se trouve dans la Genèse. « Comment pourrais-je remonter vers mon père ?» Si l'enfant n'est pas avec moi. Il expliqua à ses compagnons qu'ils étaient arrivés en Angleterre ensemble et qu'ils devaient rentrer chez eux ensemble. Frerson a appris par la suite le naufrage du Titanic et dit avec reconnaissance à son ami Fred, « Tu m'as sauvé la vie. » Fred répondit, « Non, en me faisant aller en mission, c'est toi qui m'as sauvé la vie. » Tous les missionnaires ont remercié le Seigneur de les avoir protégés. Parfois, comme cela a été le cas pour Frerson et ses collègues missionnaires, de grandes bénédictions sont accordées à ceux qui sont fidèles. Nous devons être reconnaissants pour toutes les tendres miséricordes qui nous sont accordées. Nous ignorons nombre de bénédictions que nous recevons de jour en jour. Il est extrêmement important que nous soyons habités par un esprit de gratitude. Les Écritures sont claires. Ceux qui sont justes, suivent le Sauveur et respectent ses commandements, prospéreront dans le pays. Un élément essentiel de la prospérité est le fait d'avoir l'esprit. Cependant, la justice, la prière et la fidélité n'aboutissent pas toujours à des fins heureuses dans la condition mortelle. Beaucoup de gens rencontreront de grandes épreuves. Lorsque cela arrive, le fait même d'avoir foi et de demander les bénédictions de la prêtrise est approuvé par Dieu. Le Seigneur a déclaré, « Les anciens seront appelés, prieront pour eux et poseront les mains sur eux en mon nom. S'ils meurent, ils mourront pour moi. Et s'ils vivent, ils vivront pour moi. » Il est instructif que le deuxième lien entre un membre de l'Église et le Titanic n'ait pas eu une fin heureuse dans la condition mortelle. Irene Corbett avait 30 ans. C'était une jeune épouse et une jeune mère qui venait de Provo, en Utah. Elle avait de grands talents artistiques et musicaux. Elle était enseignante et infirmière. À la demande de professionnels de la santé à Provo, elle suivit une formation complémentaire de 6 mois comme sage-femme à Londres. Elle avait le grand désir de contribuer à changer le monde. Elle était consciencieuse, réfléchie, pieuse et courageuse. Elle avait, entre autres, choisi le Titanic pour rentrer aux États-Unis parce qu'elle pensait que les missionnaires feraient le voyage avec elle et que cela apporterait une sécurité supplémentaire. Irène fut une des rares femmes qui ne survécurent pas à cette terrible tragédie. La plupart des femmes et des enfants furent mis dans les canots de sauvetage et furent finalement sauvés. Il n'y avait pas assez de canots pour tout le monde. Il semble qu'elle n'ait pas pris place dans l'un d'eux, parce que du fait de sa formation, elle s'occupait des nombreux passagers qui avaient été blessés lors de la collision avec l'iceberg. Il existe de nombreuses sortes d'épreuves. Certaines nous donnent des expériences nécessaires. Les résultats défavorables dans la condition mortelle ne sont pas la preuve d'un manque de foi ou d'une imperfection dans le plan global de notre Père Céleste. Le feu du fondeur est bien réel. Les qualités de la personnalité et la droiture qui sont forgées dans la fournaise de l'adversité nous perfectionnent, nous purifient et nous préparent à rencontrer Dieu. Quand Joseph Smith, le prophète, était emprisonné à Liberty, le Seigneur lui a déclaré que de nombreuses calamités peuvent arriver à l'humanité. Le Sauveur a entre autres déclaré « Si tu es jeté dans l'abîme, si les vagues houleuses conspirent contre toi, si des vents féroces deviennent tes ennemis et que tous les éléments s'unissent pour te barrer la route, ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. » Le Sauveur a ainsi conclu ses instructions. « Tes jours sont connus et tes années ne seront pas diminuées. C'est pourquoi ne crains pas, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. » Certaines épreuves découlent du libre-arbitre d'autres personnes. Le libre-arbitre est indispensable à la progression et au développement spirituel personnel. Le comportement malveillant est un élément du libre-arbitre. Le capitaine Moroni explique ce point de doctrine très important. Le Seigneur souffre que les justes soient tués afin que sa justice et son jugement tombent sur les méchants. Il précise bien que les justes ne sont pas perdus, mais ils entrent dans le repos du Seigneur, leur Dieu. Les méchants seront tenus pour responsables des atrocités qu'ils commettent. Certaines épreuves viennent de la désobéissance au commandement de Dieu. Les problèmes de santé provoqués par le tabac, l'alcool ou la drogue sont énormes. Les emprisonnements qui découlent de la délinquance liée à l'alcool ou à la drogue sont également très nombreux. Le taux de divorce pour infidélité est également important. Beaucoup de ces épreuves pourraient être évitées par l'obéissance aux lois de Dieu. Mon président de mission bien-aimé, Marion D. Hanks, qui est décédé en août, nous demandait, lorsque nous étions missionnaires, de mémoriser une déclaration pour résister aux épreuves de la condition mortelle. Il n'est pas de hasard, pas de sort, pas de destin qui puisse contourner, contrecarrer ou dominer la ferme résolution d'une âme décidée. Il reconnaissait que cela ne s'applique pas à toutes les épreuves que nous rencontrons, mais c'est vrai dans le domaine spirituel. J'ai apprécié son conseil dans ma vie. L'une des raisons du nombre terrible de vies perdues sur le Titanic a été le manque de canaux de sauvetage. Quelles que soient les épreuves que nous rencontrons dans la vie, l'expiation du Sauveur fournit des canaux de sauvetage pour tout le monde. Je dis aux gens qui croient que les épreuves qu'ils rencontrent sont injustes, l'expiation couvre tout ce qui est injuste dans la vie. Une difficulté spéciale pour les gens qui ont perdu un être aimé est d'éviter de s'attarder sur les occasions manquées dans cette vie. Ceux qui sont morts trop tôt ont souvent fait preuve de capacité, d'intérêt, de talent important. Avec notre compréhension limitée, nous regrettons les choses qui ne s'accompliront pas et les chants qui ne seront pas chantés. Quelqu'un a dit que c'est comme si l'on mourait avant d'avoir écrit la musique qu'on avait en soi. La musique, dans ce cas, est une métaphore représentant le potentiel non réalisé. Parfois, des gens ont effectué une préparation considérable, mais n'ont pas eu l'occasion de l'exécuter dans la condition mortelle. L'un des poèmes classiques les plus cités est « Elegy Written in a Country Churchyard » de Thomas Gray, exprime bien ces occasions manquées. « Plus d'une fleur naît sans être jamais vue, et dissipe en vain son parfum dans l'air désert. L'occasion manquée peut concerner la famille, le métier, les talents, les expériences, etc. » Toutes ces choses ont été arrêtées nettes dans le cas de Sœur Corbett. Il y a des chants qu'elle n'a pas chantés et un potentiel qu'elle n'a pas accompli dans la condition mortelle. Mais quand on voit les choses par le grand angle de l'Évangile et non par la lorgnette limitée de la simple condition mortelle, on connaît la grande récompense éternelle promise par un Père aimant dans son plan. Comme l'apôtre Paul l'a enseigné, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Le verset d'un cantique bien-aimé apporte du réconfort, de la consolation et une vue nette. Et Jésus qui écoute peut entendre les chants que je ne peux pas chanter. Le Sauveur a dit, c'est pourquoi que votre cœur soit consolé. Soyez calme et sachez que je suis Dieu. Nous avons sa promesse qu'avec nos enfants, nous chanterons des chants de joie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
As we conclude this wonderful conference,
à la fin de cette conférence, nous remercions le chœur du Tabernacle, le chœur de la primaire de Pleasant View et de North Ogden, d'Utah, et le chœur de la prêtrise de Pleasant Grove, de la belle musique et inspirante qu'ils ont interprétée. Nous remercions les chefs de chœur et les organistes de leur travail et de leur préparation. Nous remercions également les orateurs, les personnes qui ont assuré l'interprétation et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont rendu cette conférence possible. Le dernier orateur de cette session sera notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson. Après son discours, le chœur chantera Lord, we at thee, here we part. Ensuite, Gregory A. Schwitzer, des 70, fera la prière de clôture. Cette conférence sera alors ajournée. Frère Monson.
My brothers and sisters, I know you will agree.
Mes frères et sœurs, je sais que vous conviendrez avec moi que cette conférence a été des plus inspirantes. Ces deux derniers jours, nous avons abondamment ressenti l'Esprit du Seigneur. Notre cœur a été touché et notre témoignage de cette œuvre divine a été fortifié. Nous exprimons nos remerciements à tous les participants de la conférence, y compris les frères qui ont offert des prières. Nous sommes tous ici parce que nous aimons le Seigneur et que nous voulons le servir. Je vous témoigne que notre Père Céleste se soucie de nous. Je reconnais sa main en toutes choses. Une fois encore, la musique a été magnifique et j'exprime ma gratitude personnelle et celle de toute l'Église aux personnes disposées à nous faire profiter de leurs talents. Nous exprimons notre profonde reconnaissance aux frères qui ont été relevés lors de cette conférence. Ils ont rempli fidèlement leur appel et ont apporté de grandes contributions à l'œuvre du Seigneur. J'exprime ma profonde gratitude à mes conseillers fidèles et dévoués et je les remercie publiquement du soutien et de l'assistance qu'ils m'apportent. Ils sont véritablement des hommes dotés de vision et de compréhension, et leur service est très précieux. Je remercie mes frères du Collège des Douze de leur service inlassable dans l'œuvre du Seigneur. J'exprime aussi ma gratitude aux membres des collèges des 70 et à l'Épiscopat président pour leur service plein d'altruisme et d'efficacité. Je remercie aussi les femmes et les hommes qui servent comme officiers généraux d'auxiliaires. Mes frères et sœurs, je vous assure que notre Père Céleste est conscient des difficultés que nous rencontrons dans le monde d'aujourd'hui. Il aime chacun de nous et il nous bénira si nous nous efforçons de respecter ses commandements et de faire appel à lui par la prière. Comme nous sommes bénis d'avoir l'évangile de Jésus-Christ établi. Il apporte les réponses aux questions que nous nous posons sur notre origine, sur la raison de notre présence ici-bas et sur notre destinée après cette vie. Il donne un sens à notre vie et nous apporte l'espérance. Je vous remercie de vous servir les uns les autres si volontiers. Nous sommes les mains de Dieu sur la terre et nous avons la mission d'aimer et de servir ses enfants. Je vous remercie de tout ce que vous faites dans vos paroisses et dans vos branches. Je vous remercie d'accepter de servir au poste auquel vous êtes appelés, quel qu'il soit. Chacun est important pour promouvoir l'œuvre du Seigneur. La conférence est à présent terminée. Soyons prudents en rentrant chez nous. Puissions-nous tout trouver en bon état dans notre retour. Puisse l'esprit que nous avons ressenti ici être et demeurer avec nous, tandis que nous vaquons à nos occupations quotidiennes. Puissions-nous faire preuve de plus de gentillesse les uns envers les autres. Puissions-nous toujours être occupé à faire l'œuvre du Seigneur. Que les bénédictions du ciel vous soient accordées, que votre foyer soit rempli d'harmonie et d'amour. Puissiez-vous constamment nourrir votre témoignage afin qu'il soit pour vous une protection contre l'adversaire. Moi, votre humble serviteur, je désire de tout mon cœur faire la volonté de Dieu, le servir et vous servir. Je vous aime. Je prie pour vous. Je vous demande de nouveau de vous souvenir de moi et de toutes les autorités générales dans vos prières. Nous sommes unis à vous pour faire avancer cette œuvre merveilleuse. Je vous témoigne que nous œuvrons tous ensemble et que chaque homme, chaque femme et chaque enfant ont un rôle à jouer. Puisse Dieu nous donner la force, la capacité et la détermination de jouer notre rôle correctement. Je vous témoigne que cette œuvre est vraie, que notre Sauveur vit et qu'il guide et dirige son Église ici-bas. Je vous témoigne que Dieu, notre Père éternel, vit et qu'il nous aime. Il est véritablement notre Père. Il est une personne réelle. Puissions-nous nous rendre compte et comprendre combien il est désireux de s'approcher de nous, jusqu'où il est prêt à aller pour nous aider, combien il nous aime et combien il fait et est désireux de faire pour nous. Que Dieu vous bénisse. Que la paix qu'il a promise soit avec vous maintenant et à jamais. Je vous dis adieu jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans 6 mois. Je le fais au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.
Dear Heavenly Father,
cher Père éternel, à la conclusion de cette conférence, nous t'exprimons notre reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu comme enseignement de la part de tes serviteurs. Nous te remercions d'avoir un prophète pour ce conseil et pour les conseils de toutes les autorités générales et officiers généraux de l'Église qui se sont si bien préparés pour nous enseigner. Nous te demandons d'aider à accepter l'invitation à changer notre vie pour que nous puissions nous rapprocher de l'exemple que ton Fils nous a indiqué, que nous puissions suivre ses enseignements et son nom dans tout ce que nous ferons. Aide-nous à être plus gentils avec nos voisins, tel que nous l'a demandé notre cher prophète. Nous t'aimons, nous apprécions tout ce que nous avons appris aujourd'hui et nous disons cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 181st semi-annual.
Vous venez d'assister à la 181e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission était diffusée par Bonneville Distribution. Toute distribution, enregistrement ou utilisation de ce programme sans autorisation écrite est interdite.